VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire ce 5 août 2015.
En République du Congo, un nouvel opposant frappé d'interdiction de sortie du territoire.
J'ai le droit de dire non au changement de la constitution du 20 janvier 2002 sans que cela m'expose à des méthodes que même l'URSS, à son époque de gloire, avait abolies.
René-Serge Blanchard-Oba, président du MDS.
Lutte contre Boko Haram, fermeture d'une partie de la frontière camerounaise avec le Nigeria et des centaines de personnes arrêtées.
Le gouvernement ivoirien indemnise les victimes de la crise post-électorale.
Barack Obama a appelé les dirigeants sud-soudanais à accepter l'accord de paix pour mettre un terme à la guerre.
Suite à la mort du lion Cecil, l'interdiction des trophées de chasse à bord des avions nord-américains est saluée par les défenseurs de la faune.
Ça pourra permettre d'accroître notre faune qui est aujourd'hui en voie de disparition.
André Toussoumba, directeur de l'ONG congolaise Action communautaire pour la protection des primates du Kasaï.
Lors de sa visite à la Maison-Blanche, Ban Ki-moon a salué le plan Clean Power anti-pollution du président Obama.
Et ce mercredi à Washington s'ouvre la troisième journée du sommet Yali consacré aux jeunes leaders africains.
Avant la Minute Éco et les sports, voici le journal. En République du Congo, l'opposant René-Serge Blanchard-Oba, président du MSD, s'opposant au changement de la Constitution, s'est vu refuser le droit de quitter le pays. C'est le troisième opposant à être interdit de quitter le territoire après Pascal Tsati Mabiala, premier secrétaire de l'UPADS, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, et Rigobert Ngoulali, président de l'ARC, l'Action pour la renaissance du Congo. Ce neveu du président Denis Sassou Nguesso, qui devait se rendre en France pour des soins médicaux, a également vu son passeport diplomatique confisqué par la police. Au micro de Nguelan Goussou, notre correspondant à Brazzaville, il dit son étonnement.
Je suis en ce moment porteur d'un clou de 53 cm au fémur gauche. À cette date, je suis attendu en France par mon médecin pour un contrôle et suite à donner aux soins inhérents. Mon étonnement est donc grand de constater que je suis interdit de quitter le territoire national. Le lien pour moi est très évident. Il établit le rapport avec mes dernières prises de position sur la question du changement de la Constitution du 20 janvier 2002 en début de soirée lors des formalités de police par le protocole national et mon GDC. L'officier de service leur a signifié verbalement l'interdiction de quitter le territoire national, arguant que c'est sur instruction personnel du chef de l'État. Aussi, si le passeport diplomatique leur était présenté, mission leur a été donnée de le retirer afin de le remettre à monsieur le directeur général de la surveillance du territoire. Je n'ai tué personne. Je suis un citoyen congolais libre. J'ai le droit d'aller me soigner. J'ai le droit de dire non au changement de la Constitution du 20 janvier 2002 sans que cela m'expose à des méthodes que même l'URSS, à son époque de gloire, avait abolies. Ces faits graves et arbitraires traduisent une traque et un harcèlement manifeste de certains acteurs politiques. D'où un sentiment de traitement à géométrie variable entre citoyens d'une même nation. Hier, ne l'oublions pas, ce sont ces sentiments d'injustice qui nous ont conduits au drame.
René-Serge Blanchard-Oba, président du MSD en République du Congo.
Suite au rapport de Human Rights Watch sur les récentes violences en Guinée, qui ont fait au moins 2 morts et 146 blessés à Conakry, le gouvernement d'Alpha Condé invoque le manque de préparation des forces de sécurité. Chérubin Dorcil nous en dit plus.
La réponse des autorités guinéennes, reprise par l'agence France-Presse, intervient 5 jours après la publication du rapport. Selon le porte-parole du gouvernement, le ministre Albert Damantan Camara, une majorité des forces de sécurité n'a pas un niveau de formation adéquat, ce qui rend plus difficile le maintien de l'ordre. On se souvient qu'en avril et mai dernier, l'opposition menée par Seloud Alain Diallo avait organisé une série de manifestations pour protester contre le processus électoral, notamment la tenue programmée de la présidentielle avant les élections locales. Cette contestation a été violemment réprimée, comme le décrit Human Rights Watch dans son rapport. L'ONG de défense des droits humains fait état d'usage excessif de la force contre les militants de l'opposition. Cependant, souligne le porte-parole, les trois quarts des agents, soit 9 000 sur 12 000, n'ont pas reçu une formation commune de base. Celle-ci commencera après un recensement biométrique des agents. Aucune date n'a encore été fixée pour le début de cette opération. Entre-temps, le dialogue entre l'opposition et le pouvoir reste au point mort en Guinée.
En Côte d'Ivoire, les victimes de la crise post-électorale commencent à être indemnisées. Le président Alassane Ouattara a personnellement donné le coup d'envoi à cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la réconciliation. Eddy Issango.
Au total, 4500 personnes doivent bénéficier de cette indemnisation. Mais selon le président du Programme national de cohésion sociale, Mariatou Koné, l'opération concernera dans un premier temps 3500 ayant droit des personnes décédées durant les violences qui ont suivi l'élection présidentielle ivoirienne de 2010. Un chèque de 1500 euros sera remis à chaque ayant droit à titre symbolique pour les droits violés, les dommages subis et les outrages endurés, a précisé M. Koné. La commission à charge prévoit une deuxième phase après la réception de la liste consolidée. Alassane Ouattara a, dans son message du lancement de l'opération, exprimé le soutien de l'État ivoirien aux victimes. Les affrontements entre ses partisans et ceux de son prédécesseur Laurent Gbagbo, qui attend son procès à la Haye en relation avec ces violences, avaient fait plus de 3000 morts.
Le président américain Barack Obama fait pression sur les dirigeants du Soudan du Sud. Il a appelé les deux parties à accepter, d'ici la date butoir de la mi-août, les accords de paix visant à mettre un terme au conflit. Le point avec Lionel Gaïma.
Le président Salva Kiir et l'ancien vice-président Riek Machar, chef de la rébellion, ont gâché la bonne volonté de la communauté internationale à l'égard de la jeune nation sud-soudanaise, estime le président Obama. Ce pays est, depuis près de 2 ans, embourbé dans un conflit ethnique meurtrier. Le chef de l'exécutif américain avait pris part la semaine dernière au mini-sommet d'Addis Abeba sur la crise au Soudan du Sud, une rencontre qui avait pour but de déterminer les sanctions à prendre en cas de non-respect de l'ultimatum. S'il rate cet objectif, alors je pense qu'il nous faudra préparer un autre plan et reconnaître que ses dirigeants sont incapables de créer la paix qui est requise, a souligné Barack Obama. Washington a joué un rôle crucial dans l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. La guerre civile ayant éclaté dans ce pays en décembre 2013 a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a salué le président américain Barack Obama mardi pour son leadership visionnaire et audacieux dans la promotion d'un plan visant à réduire fortement la pollution de carbone produite par les centrales américaines. L'appel de M. Obama de réduire les émissions de carbone de 32% en dessous des niveaux de 2005 d'ici 2030 est contesté par certains grands groupes industriels. Industriel américain, l'estimant trop coûteux. Après une rencontre avec M. Obama à la Maison-Blanche, le chef de l'ONU a déclaré sur la question du changement climatique « Je félicite pleinement l'engagement sérieux du président Obama depuis son premier jour de fonction jusqu'à maintenant ».
Le président Obama va prononcer aujourd'hui un important discours exhortant l'approbation de l'accord nucléaire international avec l'Iran par les législateurs américains qui voteront le mois prochain. Le mois passé, l'équipe de politique étrangère du président a vanté les mérites de cet accord et l'a défendu face aux sceptiques du Congrès. Et c'est à présent donc au tour de M. Obama lui-même. Il va exhorter les législateurs à ne pas manquer une occasion historique pour le régime d'inspection nucléaire le plus complet jamais négocié qui empêchera l'Iran d'accéder à la bombe nucléaire.
Plus de 9000 pompiers luttent pour contenir 21 incendies de forêt en Californie qui ont forcé des milliers de personnes à fuir leurs maisons et brûler de grandes étendues de terre. Le plus grand incendie, le feu Rocky, a atteint 263 km² mardi matin après avoir fait irruption à travers les lignes de confinement et passé une autoroute pour se propager dans les comtés de Colusa, Lake et Yolo au nord de San Francisco. Cet incendie qui a éclaté il y a 7 jours a brûlé des dizaines de maisons et forcé 13 000 personnes à fuir leurs habitations. Près de 3 100 pompiers sont déployés pour lutter contre les flammes de Rocky Fire.
La police israélienne a arrêté deux juifs d'extrême droite mardi dans le cadre de la répression des extrémistes juifs après un incendie criminel dans lequel un bébé palestinien est mort la semaine dernière. Aucune des trois personnes arrêtées depuis lundi n'a été directement liée à la bombe incendiaire en Cisjordanie qui a laissé d'autres membres de la famille grièvement blessés. Mais ils sont tous soupçonnés de liens avec d'autres crimes violents, y compris l'incendie criminel d'église. Le ministre de la Défense, Moshe Yaalon, a signé un décret plaçant l'un des extrémistes en détention administrative, ce qui signifie qu'il peut être maintenu en prison jusqu'à 6 mois sans inculpation.
L'actualité en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Écho qui vous est présentée ce matin par Michel Joseph.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé à Grand Laou, à l'ouest d'Abidjan, l'augmentation du capital du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui passe de 6 à 8 milliards de francs CFA. Ce fonds remboursable a été mis en place par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour aider à l'autonomisation des femmes et contribuer à la lutte contre la pauvreté, rappelle l'agence APA. La Banque africaine de développement a décidé d'accorder une ligne de crédit de 1,64 milliard de francs CFA à Fidélis Finance, ex-Burkinabé, en vue de renforcer ses capacités d'intervention en matière de financement des petites et moyennes entreprises, a appris l'agence APA auprès des responsables de la société. Avec le présent concours, nous envisageons de financer au moins une cinquantaine de projets, a indiqué le directeur général de Fidélis Finance, Abdoulaye Sori. La République de Djibouti a relancé sa compagnie aérienne, dont la gestion a été confiée au chanteur du légendaire groupe de hard rock Iron Maiden, Bruce Dickinson, a appris mardi l'AFP auprès des autorités djiboutiennes. Le Kenya va construire un pont ferroviaire au-dessus de l'emblématique parc national de Nairobi pour y faire passer la nouvelle ligne de chemin de fer entre la capitale et Mombasa, principal port du pays. Une nouvelle accueillie favorablement mardi par les protecteurs de l'environnement.
Merci beaucoup Michel Joseph pour la Minute Écho. À présent les sports présentés par Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
Football, la rubrique transfert.
L'international ghanéen Kevin Prince-Boateng, 28 ans, est arrivé à Lisbonne hier soir, où il devrait signer très rapidement un contrat de 2 ans avec le Sporting Club du Portugal. Le milieu de terrain ghanéen, qui possède également la nationalité allemande, n'a pas fait de déclaration à son arrivée à l'aéroport dans la capitale portugaise. Parlons aussi de l'attaquant ivoirien de Saint-Etienne, Max-Alain Gradel, qui s'est engagé pour 4 ans avec Bournemouth. L'indemnité du transfert long à se finaliser car Saint-Etienne exigeait 1,2 million d'euros n'a pas été révélée. L'indemnité pourrait s'élever avec ou sans bonus à environ 7 millions d'euros. Après 4 saisons avec les Verts, Gradel, auteur de 17 buts en 31 matchs en Ligue 1, revient donc en Angleterre où il découvrira la Première Ligue. Et puis l'attaquant international congolais Fodé Doré a signé pour 2 ans au SCO d'Angers, club promu en Ligue 1. Quant à Lorient, le club breton s'est attaché les services de l'attaquant international camerounais Benjamin Moukandjo. Un bail de 2 ans attend le Lion indomptable, auteur de 8 buts la saison passée en Ligue 1. Montant de l'opération, 1,5 million d'euros.
Une nouvelle victoire du Real de Madrid en amicale.
Le Real de Madrid, sans Cristiano Ronaldo ni Karim Benzema blessé, a battu Tottenham 2-0 et se qualifie en finale de l'Audi Cup, le tournoi à 4 équipes disputé à Munich, à l'Allianz Arena. Le Real de Rafael Benitez affrontera mercredi en finale le vainqueur du match entre le Bayern de Munich et le Milan AC.
Championnat égyptien, le Zamalek est titré.
Le club du Caire, déjà sacré champion, s'est contenté d'un nul 0-0 face à Wadi Degla pour le dernier match en retard de la 24e journée. Le Zamalek a remporté la semaine dernière son premier titre de champion d'Égypte depuis 2004, le 12e de son histoire. Il succède ainsi au palmarès à son grand rival, Al Ahly.
La Copa Libertadores.
La nuit prochaine, les Mexicains des Tigres de Monterrey affronteront en finale, retour de la Copa, les Argentins de River Plate. Au plus haut niveau et donné favori pour remporter la plus prestigieuse compétition des clubs d'Amérique latine. Au match aller à Monterrey, les Mexicains avaient concédé le match nul 0-0.
Et enfin, championnat du monde de natation en Russie, Nicolas.
Oui, James Guy a remporté la finale du 200 mètres des mondiaux de Kazan en Russie. 1 minute 45 secondes 14 centièmes après avoir pris l'argent sur 400 mètres. Une course pas très rapide mais très serrée puisque le Britannique a devancé le Chinois Song Yang de 6 centièmes et l'Allemand Paul Biedermann de 24 centièmes. Quant à l'Américain Ryan Lochte, en tête au dernier virage grâce à sa fameuse coule et sur le dos, il termine seulement 4e à 69 millièmes.
Merci beaucoup Nicolas Pinault pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. L'ONU appelle à la reprise du dialogue inclusif au Burundi pour juguler le regain de violence après l'assassinat de l'ancien chef des services secrets, le général Adolphe Nshimirimana. Le secrétaire général a eu un entretien avec le président ougandais Yoweri Museveni, médiateur désigné par la communauté est-africaine. Eric Manirakiza a joint New York Vanina Mestrachi, la porte-parole adjointe du secrétaire général de l'ONU.
Le secrétaire général s'est entretenu par téléphone avec à la fois le président Museveni et la présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame Dlamini Zuma. Il a condamné de nouveau, de manière très ferme, l'assassinat ce week-end du général Adolphe Nshimirimana et aussi exprimé son inquiétude par rapport aux implications de cet acte d'un point de vue sécuritaire au Burundi. Il a aussi exprimé son plein soutien aux efforts de médiation du président Museveni en vue d'avoir un dialogue politique inclusif dans le pays, comme l'a recommandé la communauté des États de l'Afrique de l'Est.
Ce n'est pas le premier assassinat, il y a eu beaucoup de manifestants qui ont été tués. Qu'est-ce qui inquiète aujourd'hui?
Encore une fois, le secrétaire général a également condamné non seulement cet assassinat, mais aussi la tentative d'assassinat hier sur un militant des droits de l'homme bien connu au Burundi. Il s'inquiète de voir dans cet incident une augmentation en fait de la violence politiquement motivée dans le pays et il pense que ce cycle doit être brisé avant que cela n'augmente encore plus. Pour le secrétaire général, évidemment, le plus important, c'est de reprendre un vrai dialogue politique de bonne foi et inclusif.
Il y en a qui disent que c'est déjà dépassé, surtout ceux qui vivent au quotidien cette situation au Burundi. Qu'est-ce que vous en dites?
Le secrétaire général, pour lui, la seule solution aux différends qu'il y a en ce moment au Burundi, c'est évidemment la voie du dialogue. Et donc, encore une fois, il appelle à la reprise de ce dialogue politique mené par le président Museveni le plus rapidement possible. Parce que pour lui, c'est vraiment la seule manière de trouver une solution durable à la crise au Burundi.
La coalition de l'opposition récemment constituée à Addis Abeba a réclamé de nouvelles élections et refuse le troisième mandat du président Nkurunziza. De l'autre côté, le régime de Bujumbura a forcé la main. Est-ce que vous espérez trouver une issue à cette crise?
Pour le secrétaire général, encore une fois, il donne tout son soutien à la médiation et à la discussion menée par le président Museveni en tant que facilitateur dans ce conflit. C'est la seule manière pour lui d'éviter les tentatives de déstabilisation du Burundi. Évidemment, le secrétaire général et les Nations Unies demeurent tout à fait engagés à soutenir les efforts de consolidation de la paix et aussi de prévention des conflits au Burundi.
C'était Vanina Maestrazzi, porte-parole adjointe du secrétaire général de l'ONU. Le Cameroun a fermé une partie de la longue frontière fluviale avec le Nigeria et interdit toute navigation du crépuscule à l'aube face aux attaques des djihadistes de Boko Haram. Les gouverneurs de plusieurs régions camerounaises proches du Nigeria ont expulsé environ 200 Tchadiens et arrêté des centaines de personnes accusées d'être des sympathisants du groupe terroriste d'origine nigériane. Le point dans un reportage de notre correspondant à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka, présenté ici par Jacques Aristide.
La guerre contre Boko Haram ne cesse de s'intensifier dans le sud-ouest du Cameroun. Le gouverneur de la région affirme avoir pris des mesures pour sécuriser les voies d'accès maritime, pour empêcher le groupe nigérian d'utiliser la frontière fluviale longue de 300 km avec le Nigeria pour planifier des attaques. Bernard Okalia Bilai indique que ceux qui importent et exportent des marchandises opèrent pour la plupart dans des zones où les terroristes ont été très actifs.
We have decided that there is no longer traffic.
Nous avons décidé d'interdire tout le transport de nuit sur le plan de l'eau. Que ce soit les bateaux conventionnels, que ce soit les pirogues, nous avons prohibé les débarquements et les embarquements en provenance du pays voisin de nuit. Nous avons fermé les criques qui ne soient pas sous contrôle.
Des points de contrôle ont également été mis en place afin de passer à la loupe tous les passagers et les marchandises. D'après le gouvernement camerounais, 80% des marchandises vendues dans le sud-ouest et le nord du pays sont importées du Nigeria. Et ce sont évidemment des mesures qui ne plaisent pas à tout le monde. L'homme d'affaires Mbola Serge est d'avis que la décision d'interdire la libre circulation va paralyser les économies des deux pays et il sera difficile pour les commerçants de gagner leur vie.
Nous croyons que le gouvernement camerounais peut trouver un moyen pour lutter contre Boko Haram pour que vraiment qu'il y ait la liberté et qu'il y ait accès pour continuer à faire des affaires. Étant donné que nous sommes dans l'activité des affaires entre pays voisins et Cameroun, nous ne pouvons pas vraiment supporter si on ferme les frontières. Parce que c'est derrière nos affaires que nous vivons. Nous ne savons pas comment on peut faire avec nos enfants, nos familles. Maintenant qu'on dit qu'on ferme les frontières, nous ne savons pas ce qu'on peut faire à l'heure actuelle.
Un peu plus loin, dans le nord du Cameroun, environ 3000 Nigérians et 200 Tchadiens qui se trouvaient dans des zones frontalières avec le Nigeria ont été expulsés, toujours dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Depuis les attentats meurtriers perpétrés au Cameroun le mois dernier, lesquels ont été attribués aux djihadistes nigérians, des centaines d'individus accusés de collaborer avec Boko Haram ont été arrêtés.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
L'interdiction des trophées de chasse à bord des avions de compagnies aériennes nord-américaines suite au braconnage du lion zimbabwéen Cecil suscite des réactions. Les experts en protection de la faune apprécient la mesure tout en estimant qu'elle devrait se limiter aux espèces protégées. Eddie Isango a joint le directeur de l'ONG Action communautaire pour la protection des primates du Kasaï, André Toussoumba.
Ça ne pose aucun problème à part les espèces qui sont totalement protégées. Si les compagnies aériennes pouvaient nous aider à contrôler les trafics de bushmeat, voir les espèces qui sont commercialisées ou exportées, moi je pense que ça permettra à ce que l'on puisse protéger notre environnement et surtout qu'avec la lutte contre les changements climatiques, je crois que ça pourra permettre à accroître notre faune qui est aujourd'hui en voie de disparition.
La décision des compagnies aériennes nord-américaines concerne plutôt les trophées de chasse. Qu'en dites-vous?
La chasse est réglementée. Il y a ce que nous appelons communément la chasse sportive. Et les trophées, on ne peut pas refuser parce qu'il y a différentes lois qui réglementent la chasse. Et les compagnies aériennes ne peuvent que respecter les différentes lois et ne pas dire que le trafic ou le transport de trophées de chasse issus de la chasse qui est déjà réglementée peut être prohibé. Sinon, ça aura de l'incidence sur l'économie des États qui ont fait du tourisme comme une activité industrielle. La chasse touristique existe. Et moi, je crois que les compagnies aériennes devraient au moins respecter les différentes lois des différentes nations qui ont dans leurs droits ou dans leurs activités la chasse.
Les lions qui ont été tués étaient protégés par un institut de recherche et avaient un collier sur le cou.
Je condamne cet acte-là. Ils ont été suivis par un institut de la place. Cet acte est condamnable et c'est pour autant que l'on doit condamner les individus. Si ce sont des guides ou les conservateurs qui ont autorisé cela, moi je crois que ces gens-là doivent être traduits en justice. Ils doivent répondre de leurs actes. Même celui qui s'est permis de tuer ces lions ce n'est pas pour autant qu'il doit être dédouané pour avoir commis ce forfait. Il doit répondre de ses actes en tant qu'individu, mais que ça ne soit pas une mesure généralisée et que l'on puisse étendre cette mesure ou cette mesure commise par un individu, que ce soit un problème qui peut générer et amener jusqu'au conflit entre États, ça nous condamnons.
André Toussoumba, président d'Action communautaire pour la protection des primates du Kasaï, était joint à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Ici à Washington, ce mercredi est la troisième journée du sommet Yali, ouvert lundi par le président Barack Obama. 500 jeunes leaders africains sont actuellement dans la capitale fédérale américaine pour y assister. Certains ont participé à une émission interactive de VOA Afrique présentée par Bagassi Koura. On les écoute.
Moussa Wete Ousse.Franck, je représente le Bénin et j'étais placé à l'université de Delaware dans la catégorie Civic Leadership. À Delaware, nous avons vu des gens très aimables et très prêts à servir. Et nous avons eu des professeurs qui ont compris, pour la plupart, que nous ne sommes pas là pour apprendre de la théorie, mais pour faire de la pratique. Nous avons été entretenus sur les pratiques de gouvernance, sur les pratiques de la défense des droits des personnes vulnérables. Nous avons été entretenus sur comment une idée devient une loi. Nous avons eu de très belles expériences. Nous avons visité beaucoup de lieux touristiques aussi et c'était vraiment une expérience merveilleuse.
Je suis Yousra Abderrahim Ndiaye, je représente le Tchad dans ce programme et j'étais à l'université de Virginie, au plus exactement le Presidential Precinct. Je l'ai trouvée très très enrichissante parce que nous revenons en fait renforcés à tous les niveaux, humainement, parce que c'est quand même des gens qui viennent d'horizons très différents. L'Afrique anglophone que j'ai eu la chance, le privilège de découvrir, nous sommes renforcés au niveau de nos capacités professionnelles par rapport à notre engagement, renforcés plus que jamais et surtout on prend notre engagement en fait pour l'Afrique avec beaucoup plus de solennité.
Je m'appelle Samba Musinga Virgile Rivé, je suis du Congo-Brazzaville. J'ai été placé sous l'administration publique, public management, à l'université Commonwealth de la Virginie. L'expérience a été très, très enrichissante. J'ai particulièrement noté qu'il y avait une parfaite symbiose entre les cours académiques, les sessions pratiques et les activités communautaires. Dans mon pays, je suis juge. Je travaille au tribunal de grande instance de Dolisie et j'ai eu le bonheur, dans le cadre de ce programme, d'entrer en relation avec mes aînés dans la profession de la Cour suprême de l'État de Virginie, de la Cour d'appel de Virginie et de discuter également avec les praticiens du système juridictionnel américain sur la manière dont ils gèrent les cas relatifs, par exemple, à la criminalité aux États-Unis d'Amérique. Nous n'avons pas seulement étudié le système criminel américain, nous avons eu le bonheur de renforcer nos connaissances dans le domaine du leadership, c'est ce qui est très important, parce que du système francophone duquel je viens, il y a des aspects sur lesquels on n'insiste pas beaucoup. Le plus souvent en Afrique, lorsqu'on parle de leader, de leadership, les gens pensent automatiquement à la politique. Mais dans un contexte anglophone, la notion de leadership a des acceptions assez larges et intègre tous les aspects de la vie. Nous avons eu le bonheur, surtout au travers de ces activités communautaires, de réveiller l'esprit du volontarisme et du bénévolat qui sommeillait en nous. Que je sois magistrat, que je sois haut fonctionnaire de l'État, je peux également participer à des activités qui bénéficient à ma communauté.
Je m'appelle Mireille Kayeye et je suis burundaise. J'étais placée sous le Civic Leadership à l'Université de Virginie, Presidential Precinct. C'était une expérience très bénéfique. J'étais ravie d'abord de rencontrer les autres jeunes Africains qui sont leaders dans leur pays et de savoir les différents problèmes qu'ils rencontrent et la façon dont ils les gèrent. Ici, à l'Université de Virginie où j'étais, à travers les cours, le programme académique, mais aussi au niveau personnel, j'ai dû comprendre qu'en fait, en Afrique, on a des problèmes qui sont similaires. Mais seulement, on a beaucoup d'options pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. L'idée ici, c'est de trouver les forces de chacun, de travailler en collaboration et de venir avec des solutions qui peuvent nous aider à nous-mêmes, qui sont différentes des États-Unis, quoi.
Jacques Aristide avec vous. Ce jeudi, Washington Forum braque les projecteurs sur Yali 2, le second sommet des jeunes leaders africains aux États-Unis. Pour le président Obama, la jeunesse est le moteur du progrès. Le programme Yali peut-il aider les jeunes leaders africains à faire une réelle différence sur le continent ? Quelles doivent être leurs priorités ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, assistée par El Zoubir El Tayed. Et avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Bon mercredi à toutes et à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.